Écrit ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Hervé Gransart.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Hervé Gransart pour son roman « Dernier domicile connu », paru aux éditions Complicité en 2025. Par ailleurs, Hervé Gransart est auteur de nouvelles, de récits et de pièces de théâtre, donc voilà, un auteur aguerri. Avant d'échanger à propos de « Dernier domicile connu », qui est comme écrit en quatrième de couverture pour paraphraser Boris Vian, une histoire vraie que tu as en partie imaginée, notre petite question introductive, pourquoi l'écriture ? Comment on vient à l'écriture et la place de l'écriture dans une vie en fait ?
Alors moi ça a commencé il y a bien longtemps. Pendant mes études, il y a fort longtemps, j'ai commencé à travailler pour un journal de motonautisme, qui était le premier journal de motonautisme en France. Et on m'a demandé de faire des petits articles. Ça m'intéressait parce que déjà l'écriture, depuis longtemps, l'écriture me passionnait. Alors j'ai pas eu trop de chance, alors c'est parce que je le présentais pas bien, mais à l'école, on trouvait mes rédactions trop empoulées. Ça m'a marqué à vie, ça, trop empoulées, trop. Et donc ça m'intéressait d'écrire et j'ai fait après pour ce journal à peu près un an de reportage, qui n'était pas désagréable parce que c'était dehors. Et voilà, c'était des gros bateaux bon, qui ne sont plus trop d'actualité maintenant. Mais même, on écrivait sur des courses de motonautisme. Et puis après, je suis devenu éditeur de presse. Et j'ai continué d'écrire. Et je suis venu à l'écriture comme ça. Et c'était un petit peu le début d'Internet, les blogs. Donc j'ai créé mon propre blog. J'ai commencé à écrire des petits textes plutôt, on va dire plutôt entre guillemets politique, et puis je me suis rendu compte que c'était pas bien, enfin fallait quand même un minimum faire des recherches, on pouvait pas juste écrire ce qu'on pensait, ça n'avait pas trop de sens pour moi, et donc je me suis plutôt orienté vers des petits textes, des nouvelles, et puis j'ai travaillé aussi après pour un journal, un quotidien dans l'Ain qui est le Dauphiné Libéré. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'écrire vite, puisque c'était un quotidien, mais parfois sur des choses un peu compliquées, puisque il y avait même, je couvrais moi des conseils municipaux qui duraient longtemps, et en retirait juste l'essentiel. C'est un exercice de style quand même, sur peu de lignes, en peu de temps. C'est aussi comme ça que je suis resté au contact de la nouvelle. J'aime bien, en peu de pages, on peut tout dire en peu de pages, hein, une introduction, un milieu, une fin. Et puis ça donne une petite photographie, une pastille. Et puis tout naturellement, après j'ai été vers le roman parce que j'aime pas être trop enfermé dans un style, dans une forme, pardon. Et en fait, Dernier domicile connu est en fait le premier texte que j'ai écrit il y a plus de 20 ans. Et pour plein de raisons, dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est pas lui qui est sorti le premier, mais c'est bien ainsi.
Merci.
Alors, dans Dernier domicile connu, Michel est hospitalisé dans l'attente de l'ablation d'un poumon. Durant ces quelques journées, il fait une sorte de bilan de sa vie personnelle et professionnelle. Il est marié, père de deux enfants, grand-père depuis peu. L'épanchement qui jaillit de cet homme est souvent sarcastique, aussi bien avec son entourage qu'avec lui-même, comme s'il était passé à côté de sa vie. Seuls ses petits-enfants trouvent grâce à ses yeux.
Alors effectivement, la deuxième question qui était prévue, mais c'est pourquoi ce livre et pourquoi maintenant, puisqu'il est dit hein, dans le livre que c'est une réédition, effectivement, et que voilà. Et maintenant que ça sort, pourquoi ce thème ?
Alors, c'était... en fait, c'est pour ça que je disais, il était... j'ai commencé à l'écriture, vraiment, enfin l'écriture en tant qu'auteur, par celui-ci. Parce que souvent, on dit un premier roman, c'est souvent autobiographique. Et quand j'avais entendu ça, peut-être par esprit cabot, je m'étais dit, bah, moi, je ne ferais pas comme tout le monde. Mais en fait, si, on fait toujours un peu comme tout le monde. Et donc, je ne l'ai pas sorti, et c'est pas plus mal, parce que d'abord, je ne l'avais pas finalisé. Et il ne me semblait franchement pas abouti. Alors moi, j'ai une manie, j'écris souvent le début et la fin en démarrage. Et en fait, c'est ce qui a peu changé. C'est ce qui a peu changé. Il m'a fallu 20 ans pour le finir. Et ça a peu évolué finalement. J'ai peu fait changer. J'ai quand même réécrit des choses. J'ai édulcoré d'autres choses. J'ai rajouté d'autres parties, tant en introduction qu'en conclusion. Mais au milieu, quand j'avais commencé, je me disais, il y a pas. Enfin, cet homme-là, c'est un homme comme tout le monde, et c'est pas super c'est pas plus intéressant que d'autres vies. Et en fait, je pense que je manquais largement de maturité. Et c'est bien que j'ai attendu pour X raisons, même par cabotinage, parce que ça m'a permis d'évoluer, de mûrir, et je suis pas complètement satisfait de ce que j'ai écrit, mais en tout cas, il me semble que c'est abouti, et je pense qu'il y a 20 ans, il m'aurait pas satisfait. Donc j'ai longtemps attendu, j'ai mis de côté, j'ai commencé par donc réellement des nouvelles, et elles ont été publiées, et au fur et à mesure, j'ai avancé. Il est problématique, ce livre-là, parce que j'y tenais, puisqu'il est pour partie autobiographique, mais c'est en fait l'histoire de mon papa, tous les faits sont réels, absolument réels. C'est l'interprétation que j'en fais qui est donc la partie imaginée, parce que c'était un homme excessivement taciturne, et je suis pas sûr qu'il penserait ce qui est écrit. Je crois, il me semble, mais j'avais besoin de le réhabiliter, et peut-être moi de me réhabiliter moi-même. J'avais besoin d'écrire, voilà, parce qu'il parlait peu, il était capable de dire un seul mot en une journée, et c'est forcément compliqué, d'autant plus quand c'est son papa. Donc l'idée, c'était ni de le réhabiliter lui en tant qu'homme, ni de le juger, c'était juste d'écrire une histoire que j'ai finalement traversée. Je l'ai quand même connue, mais voilà, j'ai l'impression de ne pas le connaître, quoi. Il parlait très très peu, il a eu une vie, il était, je pense, c'est pour ça que je l'écris dans le livre, enfin je le fais vivre comme ça, il me semble pas au bon endroit. C'est un homme qui a pas su gérer ça, pas au bon endroit, pas au bon moment, et qui a pas su dire que c'est pas la vie qu'il voulait. Donc pendant 30 ans, il a presque tout fait bien, enfin femme, enfant, travail. Et puis un jour, il est sorti du chemin. Mais franchement, enfin il est beaucoup sorti quand même. Voilà.
Merci. Alors, justement, Michel, cet homme, ce père, ton père, à qui tu prêtes des pensées, effectivement, tel que c'est écrit, est central dans le livre, mais il y a un autre personnage aussi qui est central, c'est sa femme, et qui n'est pas épargnée dans l'écriture. C'est un peu au vitriol à des moments donnés. Alors, comme on connaît un peu la stratégie d'écriture, prêter à son personnage des pensées dont on n'est pas sûr que ce soit les siennes, il y a une petite question qui se pose, parce que là, est-ce qu'il n'y a pas une écriture, un deuxième niveau d'écriture ? Parce que le portrait est terrible, en fait. Je suis désolée.
Non, mais il n'y a pas de problème. J'assume le. Alors, oui, bien évidemment. Alors, ce n'est pas un règlement de compte, ça pourrait le sembler, et présenté comme ça, ça semblerait. Ce n'est pas un règlement de compte. Maintenant, pour ne rien cacher, j'ai plus de contact avec ma maman depuis des années et des années. Et elle voit pas du tout l'histoire comme ça. Elle a raison. Elle a souffert. Elle a beaucoup souffert parce que, encore une fois, les faits sont absolument réels. Mais ça me touche tellement que, pour revenir à la question antérieure, c'est pourquoi rééditer aujourd'hui, c'est que je suis tombé chez une éditrice un petit peu indélicate qui n'a pas tenu le choc, et c'était important pour moi qu'il existe encore, ce livre, et l'éditeur avec qui je travaille maintenant a eu la gentillesse de bien vouloir le lire, sachant qu'il avait été pourtant déjà édité et qu'il avait déjà donc eu une vie commerciale. Et il a, bon, il a aimé l'histoire, il a bien voulu le rééditer. C'était important, c'était vraiment important. Je tiens à cette histoire, oui, je tiens bien évidemment à cette histoire, mais à ce livre, pour les raisons expliquées. Quant à l'épouse, quant à, la à ma maman, oui, elle ne voit pas ça comme ça. Et, mais je peux comprendre, vraiment, objectivement, je sais qu'elle a souffert, c'est plus la façon dont nous, elle nous l'a fait vivre, ressenti. Bon, pour elle, carrément, je l'oublie, parce que je sais qu'elle a lu le livre, je le sais par ma sœur, et elle trouve ça scandaleux, parce que pour elle, j'exonère son mari.
Moi, je ne suis pas d'accord que le livre exonère Michel.
Non. Ah oui, moi, je ne l'exonère pas, mais je n'en fais pas non plus un monstre, quoi.
Parce qu'il se décharge un peu sur les autres, quand même.
Oui,
mais... Et quand il dit... Alors moi, j'ai relevé une phrase. Quand il dit « On m'a collé toutes ces obligations de cadre, de père, de mari, en s'en lavant les mains et en me laissant me dépatouiller. » Alors déjà, je me dis « Mais c'est qui on ?» Parce que... Bah oui, parce que bon... en fait... à plusieurs moments dans le livre, hein, il ressort que, comme si lui, il était un peu... il subissait, un peu passif, et qu'il était...
Mais
je trouve pas qu'il est exonéré. Parce
Non, mais je veux pas l'exonérer. Mais il a subi le côté moins. Je pense que ça apparaît quand même. C'est réellement. Alors ça me coûte un peu de le dire, mais c'est la réalité. C'était un menteur patenté, hein, quand même, vraiment. Donc et il faisait un peu comme ça l'arrangeait. Et il l'a fait. Je le dis même à la fin. En fait, il a vécu à sa façon. C'était toujours à sa façon. La seule chose, c'est que on n'a réellement jamais su ce qu'il pensait, parce que franchement, c'était. Je connais des gens taciturnes, mais à ce point-là, il fumait cigarette sur cigarette. Mais comment dire, il a donné le change jusqu'à un long moment. Professionnellement, il a eu même un travail dans un département dans une société où quatre avant lui n'avaient pas tenu plus d'un an. Mais il y avait un côté défi. Mais sans être vraiment sans ligne de conduite, c'était un défi pour le défi, mais il n'y avait pas de raison, une sorte de tracé. En général, on essaye d'avoir une, alors on peut en dévier parfois du tracé, mais d'avoir une espèce de ligne de conduite et qui amène à quelque part. Et lui, là, c'était plutôt une juxtaposition de choses. Et puis ce que je fais transparaître comme dans le roman, il a été contraint par son père, mon grand-père était c'était l'archétype même du patriarche d'après-guerre, jusqu'à l'exagération de la grosse chevalière, la timbale en argent, qui était plus grosse que celle de son épouse, qui était plus grosse, c'était papa ours, et quand vous lui disiez quelque chose qui le contrariait, il vous disait, c'est moi qui l'ai dit, donc j'ai raison, et toi t'as tort. Donc, je pense que ça l'a un peu écrasé, et que tout le monde n'est pas toujours capable de se défendre contre ça. Alors oui, là, il y avait un côté un peu, pas indolent, mais oui, il s'est laissé un peu... Enfin, il s'est laissé faire par les événements au fur et à mesure.
C'est ce qu'il dit.
Ouais. Mais je crois que là, c'est plutôt moi qui le dis. Lui, je ne l'ai jamais entendu le dire.
Oui, c'est ça.
Oui, mais en même temps, je règle pas mes comptes. Même avec ma mère, je ne règle pas mes comptes. Enfin, je ne voudrais pas laisser... Oui, je ne la présente pas sous un meilleur jour, c'est vrai. Mais le but n'était pas de régler des comptes. C'était plus de... Ou alors me régler des comptes vis-à-vis de moi-même aussi. Parce que voilà, il y a un manque. Hein. Très honnêtement, il y a un manque. Encore une fois, hein, j'ai vécu... ce que je raconte dans le livre, jusqu'à aller le chercher, son fils va le chercher, et ils en viennent presque aux mains, je l'ai vraiment vécu. Et c'est quand même compliqué. Voilà. Mmh. Après, je pense que j'ai dépassé ça, et je ne suis pas sûr que le livre m'a plus aidé. Il fallait que je l'écrive pour que ça m'aide, plus que le livre lui-même en lui-même.
D'accord.
Bon, c'est la pause musicale. Hervé Gansard a choisi Behind Blue Eyes par The Who.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you.
Là sur JTFM 91.2, nous sommes en compagnie d'Hervé Gonsard pour son roman « Dernier domicile connu ».
La question de l'enfance, hein, qui est très présente, en tout cas dans ce qui est fait dire à cet homme, hein, ça revient. Alors là, tu disais tout à l'heure, hein, le grand-père, mais il y a quelque chose, effectivement, comme si l'enfance était indélébile. Et une question, c'est que ça amène un peu, est-ce qu'on est juste le produit de son histoire, en fait ? On extrapole un peu du livre. Parce qu'il y a un petit, il y a quelque chose de fort là où il y a des retours permanents à la question de l'enfance qui marquerait à vie et qui signerait une trajectoire. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on peut faire autrement ?
Je pense qu'il y a... moi, c'est une interrogation et elle est quasi permanente et perpétuelle. Et je pense pas y répondre, ou tout au moins par petites touches. Je sais pas, ça me préoccupe, ça m'occupe, et même maintenant, par rapport à mes enfants, et j'ai des petits-enfants, quand je me retourne sur mon enfance, je me dis, moi j'ai eu une enfance peut-être presque... banale, d'abord pas malheureuse, déjà et d'une, parce que moi j'ai connu mon père pas à l'époque où il a vrillé, comme je dis, c'était une enfance anodine, j'ai été ni heureux, en tout cas pas malheureux déjà, presque heureux, c'était très banal en fait. C'est aussi ce qui m'a, à un moment donné, posé le problème de dire franchement, il n'y a rien à raconter, tu t'es en train de te perdre à écrire ça, ça va intéresser personne, et c'est très 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 banal. Je m'aperçois quand même que maintenant, dans mes activités personnelles et professionnelles, il m'a manqué, ça s'est, j'espère, amélioré par l'environnement, mon épouse, des amis, enfin plein de choses, mais on n'a pas été très sollicité, moi je trouve, au début, pas culturellement, je trouve que c'était un peu pauvre, il me semble, pauvre intellectuellement, j'entends. La seule chose avec mon père, on pouvait débattre, c'était de la politique. Et j'ai ce goût-là de la politique, c'est que il aimait ça, vraiment. Il a été conseiller municipal, un petit patelin, mais il aimait ça, vraiment. Et du coup, ça, il en parlait. Pour le reste, c'était très... plus que banal, c'était pauvre. Et ça m'a toujours interpellé, choqué même. Et je vois même en tant que père et grand-père, je sollicite beaucoup, comme si je voulais rattraper tout ce manque, parce que je pense qu'il faut, c'est à l'enfance qu'il faut solliciter, interpeller les enfants, les pousser un petit peu, les éduquer, les éduquer au sens culturel de la chose, et leur parler de vous voyez, il y a aussi une question d'époque, bien évidemment, il y a des époques pour parler d'eux, mais l'égalité des moi c'est un de mes chevaux de bataille, mais l'égalité des droits femmes hommes, on n'en parlait pas du tout, nous. Alors encore une fois, c'est aussi une question d'époque, mais quand même les migrants, le racisme, il y en avait déjà à cette époque là quand même, et l'effet de société, je vous dis, à part la politique, vraiment la politique politicienne, pratiquement, on parlait pas de grand chose, quoi. C'était vraiment pas je pense qu'on n'était pas une famille très intéressante, franchement. Enfin, ça manquait de débat, en tout cas. Et là-dessus, ils sont tous les deux un petit peu, responsables et coupables. Et donc, ça m'a toujours Ça me poursuit encore maintenant, mais les moi j'écris plus d'abord j'écris pas de polar, la pensée des gens, ça m'interpelle toujours, ça me fascine même. Pourquoi telle personne A réagit à tel événement comme ça alors que B va réagir autrement, et on sait pas trop pourquoi, ce que pensent les gens, ça me fascine vraiment. Mais voilà, donc c'est un peu mon sillon. Et ce roman-là répond aussi à ça, parce qu'il n'y a pas que... Enfin oui, il y a l'histoire de mon père, bien évidemment, et tout ce que j'y ai vécu et pas vécu, mais ça, je pense que j'aurais pu écrire sur un... Je l'ai fait avant, d'ailleurs, sur un couple qui est totalement fictionnel. Lui, il ne l'est pas, voilà. C'est...
Merci beaucoup. Alors, il y a plein de choses dans ce livre. Un autre point qui apparaît assez fortement, c'est la question des petits-enfants, la rédemption par les petits-enfants. Alors, je dirais qu'est à la fois singulière ici, mais qui est assez courant, on va dire, dans les histoires de famille où des enfants témoignent de parents parfois un peu loin, un peu démonstratifs, et des petits-enfants qui, tout d'un coup, réveillent des choses. Et là, en l'occurrence, ce père, tout d'un coup, dans le résumé, Martine disait, seuls ses petits-enfants trouvent grâce à ses yeux, notamment le garçon, parce que la petite fille est née un peu tardivement pour peut-être être autant en lien. Voilà, donc un petit échange à ce propos-là, quoi.
Mais il a, oui, parce que c'est de manière bizarre, enfin, il a tenu 30 ans de manière quasi impeccable. Il est sorti de la route, il a fait une sortie de route qui est quand même assez dramatique et assez conséquente pendant une bonne décennie, voire plus. Et du jour au lendemain, il y a quand même eu deux séjours en hôpital psychiatrique. Il était devenu alcoolique. Enfin bon, bref, on a eu l'eau de difficultés pour ne pas dire plus. Et puis du jour au lendemain, alors je pense qu'il est tombé. Enfin, il est tombé sur un psy qui l'a vraiment bien suivi, bien cerné et qui a fait ce qu'il faut. Et du jour au lendemain, il est redevenu presque ce qu'il était au départ, et en faisant des efforts et montrant que vraiment il avait repris la route normale. Et nous, enfin avec mon épouse, on lui a quand même laissé notre fils qui était petit en vacances. Et même encore aujourd'hui, mon fils se souvient quand il avait 6 ans, il disait mais on se regardait dans les yeux et on se comprenait, on n'avait pas besoin de se parler. Ça m'avait interpellé, cette phrase, et mon fils s'en souvient encore aujourd'hui, hein, il a 33 ans, 34 même, et il le dit, il l'affirme, et il dit, mais il fumait, alors il continuait de fumer, mais donc il ne conduisait pas beaucoup parler, mais mon fils dit qu'ils se comprenaient tous les deux, et c'était important pour lui de pouvoir avoir son petit-fils pour montrer qu'il était redevenu quelqu'un de respectable, comme disait son épouse.
Moi, justement, par rapport à ça, parce que plusieurs fois dans le livre, il appuie sur le fait qu'il n'y avait pas de communication dans la famille, que les parents ne disaient pas, ont jamais dit « je t'aime » à leurs enfants. Et moi, je me disais, mais est-ce que c'est forcément, enfin, je l'avais noté, est-ce que c'est forcément nécessaire de dire « je t'aime » pour faire comprendre qu'on aime ses enfants ? Et là, justement, ça corrobore un peu, puisqu'entre le grand-père et le petit-fils, des regards apparemment suffisent pour qu'ils sentent finalement leur attachement, quoi, et que parfois un geste, quelque chose, ça, et on sait que voilà.
Alors, il n'y a pas forcément peut-être besoin de dire à ses enfants ou petits-enfants qu'on les aime je parlerai plutôt des enfants que des petits-enfants, parce qu'en général on est moins sur l'éducation et sur le suivi. Il n'y a pas besoin, si vous ne passez pas votre temps à dire à vos enfants qu'ils sont nuls, qu'ils n'arriveront à rien, que c'est des bons à rien.
Ça, c'est sûr.
Voilà. Donc, nous, on a entendu, et ma sœur également, hein, de la part des deux, hein, d'ailleurs, que de toute façon... Alors, on a aussi tout fait pour, parfois, parce qu'à force de s'entendre dire qu'on était des bons à rien, mais finalement, on donnait le change, ce qui n'était pas bien malin. Mais nous, on a quand même été pas mal dévalués, et de ne pas entendre ses parents dire, ne pas prononcer le mot... moi, j'ai été un peu suivi, fut un temps, pour X raisons. Et j'ai quelqu'un qui m'a toujours dit, est-ce que vous dites à vos enfants que vous les aimez? Ma première réponse avait été de dire, mais non, mais ils le savent, c'est évident. Et elle m'a dit, mais alors, vous n'avez rien compris. Alors.
C'est vrai, mais est-ce que du coup, ça n'a pas été en porte-à-faux de se faire rabaisser plus bas que terre et d'un autre côté, qu'on vous dise je t'aime, quoi. Enfin, ça,
oui, oui, mais...
Ça, est-ce que ça a du sens, quoi, en fin de compte?
Non, mais je pense qu'en même temps, en vieillissant, je pense qu'il le... Enfin, j'espère qu'ils ne le pensaient pas tant que ça, que c'était une sorte de mécanique un peu détestable et un peu... Mais en tout cas, ce qui est certain, je pense que lui, c'était pas le problème d'aimer ou pas aimer, c'était le problème de pas savoir le dire. Et je pense réellement, mais vraiment, alors ça a l'air d'excuser, mais qu'il était mal dans sa peau, mais oui, terriblement mal dans sa peau. Alors il y a des gens qui l'externalisent vraiment beaucoup, quelle que soit la façon, et puis d'autres qui le gardent, et c'était quelqu'un d'extrêmement introverti, hein, vraiment. Mais moi, j'ai des souvenirs même d'amis d'enfance qui me disaient, mais il était sympa, il était drôle, il avait des fulgurances comme ça, c'était un pince sans rire. Je pense juste qu'il était réellement mal dans sa peau. Vraiment, je le dis, j'en suis convaincu. Alors que ma mère, je pense qu'il y a, et même dans sa famille, il y a un réel manque d'amour. Enfin, c'était des gens qui s'aimaient eux-mêmes, mais pas trop les autres, quoi. Mais vraiment, hein, alors ça a l'air d'être agressif, ce que je dis là, mais... Mais réellement, lui, c'était juste... voilà, il nous a aimés... Encore une fois, il a vécu à sa façon. Il nous a aimés à sa façon. Et par exemple, il a tout de suite... Je ne sais même pas pourquoi... Enfin, je ne sais même pas pourquoi elle le mérite, mais il a adoré mon épouse tout de suite. Et il disait toujours, de toute façon, elle est plus intelligente que toi. Bon. Mais la seule conversation que j'ai eue en... Quoi, donc il est en 60 ans de sa vie, enfin, donc la mienne un peu moins forcément, c'est dans cette salle d'attente d'hôpital où d'un seul coup il m'a dit tout ce qu'il avait, il m'avait jamais dit. Ça n'a pas duré longtemps, mais le peu que ça a duré, ça m'a, alors pour le coup ça me marquera à vie, et je me dis, et c'est aussi sûrement pour ça que j'avais besoin d'écrire, et parce que j'écrivais, sinon ben, je ne l'aurais pas écrit, mais j'aurais fait autrement, dit autrement, ou juste pensé, mais ça m'a marqué au fer rouge, parce qu'il y avait en même temps ce côté, c'est dommage d'avoir attendu si longtemps, quoi, pour dire quel manque, et surtout qu'il est décédé quelques jours après. C'est terrible, enfin, même encore aujourd'hui, j'ai du mal avec ça, et pour ne rien cacher, enfin, alors ça a l'air d'être très... péremptoire ce que je vais te dire, mais ça m'arrive de temps en temps, de moins en moins, mais de relire ce dernier passage, ça arrive de me faire pleurer parce que c'est, je trouve ça très, même c'est même violent, quoi. Enfin, c'est d'en arriver là et de dire, quoi, en une demi-heure, une heure, tout ce qui n'a pas été dit pendant plus de 30 ans, c'est terrible, quoi. Enfin, il s'est pas rendu compte. Alors en partie, oui, je l'excuse puisque je dis qu'il n'était pas à sa place. Mais bon, il se rend pas compte à quel point. Enfin, c'est délétère, quoi. C'est terrible, quoi. Enfin, c'est voilà. Mais encore une fois, il est pas le seul. Enfin, pour discuter avec à droite et à gauche des gens, j'en ai même après qui, en ayant lu le livre, me disaient, mais j'ai l'impression d'avoir que c'était. On parlait de ma famille. Donc, oui, je pense qu'on a tous plus ou moins vécu ça.
On va arrêter là. Donc la dernière, parce que là, ça y est.
Petite dernière question, oui. Juste parce que en fait, j'ai dit tout à l'heure, on a pris un angle pour lire, donc on est. Partiel. Est-ce que toi, tu as envie de dire des choses sur ce livre qu'on n'aurait pas abordé, ou voilà, quelque chose de particulier?
Non, je suis finalement... j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et j'ai mis du temps à en être heureux. Je ne sais pas si j'en suis fier, mais j'en suis heureux et je me suis déjà posé la question de dire, est-ce que je le réécrirais autrement? Alors, autant certaines nouvelles, je me dis oui, il y a des choses quand même. Autant là, non. C'est à telle enseigne qu'il était vraiment important pour moi, il était primordial qu'il soit réédité, vraiment. Mais pas comme un objet à pas toucher. Il fallait qu'il existe et je suis content de l'avoir fait. Et je ne réécrirai rien de différent, en fait. Je suis heureux de l'avoir fait comme ça. Alors, est-ce qu'il fallait que ce soit... J'en sais rien, peu importe, mais je suis heureux de l'avoir fait comme ça.
Très bien. Merci beaucoup. Donc, pour finir, Hervé Gansard a choisi Bruce Springsteen, Born to Run.